Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Ces vérités constituent le fondement de la foi chrétienne.
La résurrection de Jésus-Christ fait l'objet de la série d'émissions que nous continuons aujourd'hui. Cette résurrection a-t-elle réellement eu lieu? Quels sont le sens et l'importance de cet événement? Voici les questions qui nous intéresseront tout au long de cette série.
La dernière fois, nous avons appris que Jésus a promis de ressusciter d'entre les morts tous ceux qui croient en lui. Et parce que Jésus lui-même est ressuscité, nous pouvons être sûrs qu'il réalisera cette promesse. Vous pouvez vous demander alors à quoi ressembleront nos corps une fois ressuscités et quelle vie nous mènerons. C'est sur ces questions qu'Yann et son invité Flavien se pencheront aujourd'hui.
Merci Hélène pour cette introduction et bienvenue à Flavien. Merci d'être de retour parmi nous.
Oui, merci Yann. Bonjour à tous.
Nous accéderons à la résurrection et à la vie éternelle dans un âge futur. Et il est normal de s'interroger sur cet avenir qui va se dérouler sous nos yeux. La Bible nous apprend-elle quelque chose à ce sujet?
Il est vrai que la réalité de la vie éternelle échappe à notre entendement. Pour mieux comprendre les projets de Dieu pour nous, nous devons nous pencher sur ce que Dieu a choisi de nous révéler dans sa parole, la Bible.
La Bible nous enseigne donc à ce sujet?
Oui, elle nous donne un petit aperçu de la résurrection. Mais nous sommes loin de tout comprendre.
Dites-nous alors ce que Dieu a choisi de nous révéler. Par où voulez-vous commencer?
Nous commencerons avec l'enseignement de l'apôtre Paul, qui parle de nos corps une fois ressuscités. Sandra nous lira des extraits de la première lettre de Paul aux Corinthiens, car ces chrétiens se posaient justement des questions à ce sujet.
Mais, demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils? Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible, et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car, lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée.
Quelle leçon voudriez-vous souligner à partir de cette lecture?
Eh bien, dans la vie éternelle, nos nouveaux corps conviendront parfaitement à notre nouvelle existence. Car Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous ne savons pas à quoi ils ressembleront. Toutefois, la Bible l'affirme. Notre corps ressuscité sera tout à fait apte à vivre dans ce nouveau monde. De plus, nos corps transformés par la résurrection seront créés pour vivre cette nouvelle existence, la vie éternelle.
Mais qu'apprenons-nous exactement sur la nature de nos nouveaux corps? Pouvez-vous nous éclairer davantage?
Oui. Paul choisit l'exemple du grain qui, lorsqu'il pousse, se transforme en une plante. Peut-être une fleur, un buisson ou même un arbre. Le grain et la fleur demeurent la même plante. Toutefois, le grain a subi une transformation marquante. De la même façon, après la résurrection, nous garderons notre identité, c'est-à-dire que nous demeurons la même personne. Toutefois, nous aurons des corps, bien que probablement reconnaissables, très différents à bien des égards.
Parlez-nous de ces différences.
Paul en évoque deux importantes. Tout d'abord, si dans ce temps présent nous sommes mortels, dans la vie éternelle nous serons immortels. Ensuite, si aujourd'hui notre corps est corruptible, après la résurrection, il deviendra incorruptible.
Donnez-nous une définition de ces mots qui ne sont pas forcément connus de tous.
Dire que nous sommes mortels, c'est simplement admettre que nous mourrons tous un jour. Oui, nous possédons des corps mortels, c'est-à-dire des corps qui subissent les effets du vieillissement, qui sont sujets aux maladies et à toutes sortes de problèmes de santé. Nos corps sont fragiles et vulnérables. Et le jour viendra où le souffle de la vie les quittera. Une personne immortelle, par contre, ne mourra jamais. Dieu l'affirme, après la résurrection, nous deviendrons immortels. C'est-à-dire que nous ne mourrons plus jamais. Nous entrerons dans la vie éternelle et nous ne connaîtrons plus la mort. Nos corps ressuscités ne seront plus assujettis ni au vieillissement, ni aux maladies, ni à aucun problème de santé.
Quelle belle espérance! Parlez-nous à présent de la corruptibilité et de l'incorruptibilité.
Prenons pour exemple le monde politique. Continuellement, les hommes politiques sont confrontés à des personnes cherchant à les influencer. Ces personnes peuvent leur offrir des pots de vin afin d'obtenir des avantages. Le mot corruption désigne alors toute pratique injuste. Nous pouvons dire qu'un homme politique qui accepte des pots de vin est corruptible car il se laisse influencer et manipuler. Toutefois, tout homme politique qui refuse de poursuivre le mal est incorruptible. Il veut demeurer intègre. Ainsi, la corruptibilité évoque notre penchant à nous laisser dominer par le mal, à être influencé par lui. Elle est cette tendance à faire le mal, à commettre des fautes et à pécher. Après la résurrection, nous deviendrons incorruptibles. Dieu fera de nous des personnes bonnes, droites, pure, sainte, et nous le demeurerons à jamais. Une personne incorruptible ne se laisse pas influencer par le mal. Le mal ne peut rien contre elle. Une fois incorruptible, nous n'aurons plus aucun attrait pour le mal, ni aucun goût pour lui. Le péché ne nous séduira plus.
Et une fois de plus, quelle merveilleuse espérance! Nous avons constamment à lutter contre notre tendance naturelle à faire le mal. Et nous pouvons en être découragés. Toutefois, le jour viendra où nous serons entièrement délivrés du pouvoir du péché.
En effet, combien il est rassurant de savoir que cette lutte contre le mal se terminera un jour.
Nous nous sommes donc penchés sur les paroles de l'apôtre Paul concernant la résurrection. Voulez-vous ajouter quelque chose?
Non, je voudrais à présent considérer d'autres textes bibliques, cette fois-ci tirés du livre de l'Apocalypse. Sandra va nous en lire trois extraits. Ils évoquent les visions sur la vie éternelle que Dieu a accordées à l'apôtre Jean. Ces visions sont très imagées. Elles ne doivent pas être interprétées trop littéralement. Je cède donc la parole à Sandra.
C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. »
Merci Sandra, ces beaux textes fortifient effectivement notre espérance.
En effet Yann, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Alors, il a fait entrevoir à l'apôtre Jean un aperçu de la vie éternelle pour le réconforter et lui assurer qu'un avenir meilleur se dessine pour le peuple de Dieu. Un avenir glorieux et réservé à tous ceux qui demeureront fidèles à Jésus. Si l'apôtre Paul a surtout parlé de la résurrection personnelle et individuelle, l'apôtre Jean nous apporte une vision plus large de la vie éternelle.
Et que devons-nous surtout retenir ?
D'abord, Jean attire essentiellement notre attention sur ceux qui ne se trouvent pas dans le royaume de Dieu. En effet, il n'y aura jamais faim ni soif. La mort comme le deuil y seront absents. On n'y connaîtra ni les larmes, ni la souffrance, ni des raisons de se lamenter. Il n'y aura plus de malédiction, ni ténèbres spirituelles. On ne vivra plus le péché, ni toutes sortes d'impuretés morales ou spirituelles.
En bref, tout ce qui gâche notre vie à présent sera absent de la vie éternelle.
C'est exact, Yann. Parlons à présent de tout ce que nous y trouverons. Ces visions affirment que Dieu sera présent avec son peuple, avec ceux et celles qui croient en Jésus. En ce lieu, ils verront Dieu, ils entendront sa voix. Ils le connaîtront tel qu'il est. Dieu habitera avec son peuple et dans son royaume, une paix parfaite règnera. Les ressuscités connaîtront Dieu comme jamais auparavant. Ils goûteront aussi à la vraie paix et à la sécurité, à la justice et à la prospérité. Ils seront parfaitement guéris de toute cicatrice émotionnelle ou psychologique du passé.
Merci Flavien de nous avoir dévoilé cette vision formidable de la vie éternelle. Nous avons hâte que ce jour de la résurrection vienne.
Il est vrai que l'attente de ce jour peut paraître parfois bien longue et pénible, mais nous avons cette promesse sûre et certaine que Jésus reviendra et qu'il nous ressuscitera pour vivre éternellement avec lui. La prochaine fois, lors de mon intervention, nous nous demanderons comment nous pouvons vivre à la lumière de cette espérance. Autrement dit, comment devons-nous attendre Jésus ?
Merci. Au revoir Flavien et à bientôt.
Au revoir Yann, au revoir à tous.
Chers amis auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute. Nous vous disons au revoir et que Dieu vous bénisse.
Et qu'il fortifie votre espérance, fondée sur l'attente du retour de Jésus-Christ. Au revoir.